Le péché est entré dans le monde à cause d'un seul homme, Adam, et le péché a amené la mort. Et ainsi, la mort a atteint tous les hommes, parce que tous ont péché. Il n'y a pas de différence entre les humains. Tous ont péché et sont privés de la présence glorieuse de Dieu. Dans le langage courant, le premier péché, le péché originel, est souvent désigné par la chute de l'homme. Par extension, chuter est parfois employé comme synonyme de péché. Jésus lui-même, la veille de sa mort, déclare « Je serai pour vous tous cette nuit une occasion de chute, car il est écrit « Je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées ». Ces versets et la parole même du Seigneur nous disent que chuter est inévitable. Depuis Adam, Satan n'a pas cessé de chercher par tous les moyens à nous faire chuter et à nous faire croire que nous ne valons rien, que nous ne pouvons pas nous en sortir. Réfléchissez. Si même les disciples peuvent chuter, ceux qui ont passé 3 ans et demi en compagnie du Maître, entendu ses messages de leurs oreilles et vu ses miracles de leurs yeux, alors tout le monde peut chuter. C'est évident, me direz-vous. Peut-être. Mais malgré cet avertissement, Pierre, par exemple, ne se sent pas concerné et dit à Jésus « Quand tu serais pour tous une occasion de chute, tu ne le seras jamais pour moi. » Jésus connaît bien la nature humaine. L'esprit est prompt à bien faire, mais la chair est faible. Il savait ce qui allait arriver et dit à Pierre « Je te le déclare, c'est la vérité, cette nuit même, avant que le coq chante, tu auras prétendu 3 fois ne pas me connaître. » Mais Pierre, sûr de lui, ignore totalement l'avertissement du maître. Il lui répond « Je ne prétendrai jamais que je ne te connais pas, même si je dois mourir avec toi. » Et tous les autres disciples dirent la même chose. À cet instant, Pierre aurait mieux fait de se taire. Mais il faisait confiance à ses propres forces, qui n'allaient pourtant pas tarder à voler en éclats. Et gardons-nous bien de lui jeter la pierre, car c'est très souvent ce qui nous arrive, à nous aussi. Combien de fois faisons-nous confiance à nos propres forces, à notre propre jugement, à notre intelligence, à nos sentiments et à nos ressentis, sans même songer à prendre l'avis du Seigneur dans sa parole et dans la prière. Par exemple, quand nous prenons une résolution que nous ne tenons pas, « Cette année, je vais lire ma Bible tous les jours. » C'est fini, je ne dirai plus de gros mots. Cette année, je ne me mettrai plus en colère. C'est décidé, je ne dirai plus de mal de personne. Combien de fois faisons-nous confiance à nos propres forces, par exemple, quand nous péchons volontairement, en dissimulant des revenus au fisc ou en touchant des prestations indues? Nous nous pensons plus intelligents que celui qui ne fraude pas, sans même faire attention que le Seigneur nous observe. En mentant à notre conjoint, à nos enfants, à notre frère ou sœur en Christ, à notre prochain, celui que Dieu met sur notre route. Nous pensons que c'est mieux ainsi, ou peut-être plus facile sur le moment, au mépris de ce que nous dit le Seigneur, et gare aux conséquences à long terme. Nous faisons confiance à nos propres forces, par exemple, en refusant d'appliquer les gestes barrières qui peuvent protéger notre prochain. Dans ce cas, c'est aux autorités que nous refusons d'obéir, en oubliant que les autorités sont établies par Dieu et qu'il nous demande de les respecter. Rappelle aux fidèles qu'ils doivent se soumettre aux dirigeants et aux autorités, qu'ils doivent leur obéir en étant prêts à faire toute action bonne. Qu'ils ne disent du mal de personne, qu'ils soient pacifiques et bienveillants, et qu'ils fassent continuellement preuve de douceur envers tous les hommes. Tite 3, versets 1 et 2. Nous péchons aussi volontairement quand nous restons dans l'animosité ou la haine vis-à-vis d'un tel ou une telle, quand nous lui cassons du sucre sur le dos. Combien de fois faisons-nous confiance à nos propres forces, par exemple quand nous bâtissons nos projets de vie? De toute façon, si le Seigneur m'a donné une intelligence, c'est bien pour m'en servir. Oui, c'est bien vrai. Mais si nous ne restons pas conscients de nos limites, si nous ne gardons pas volontairement l'œil et l'oreille tournés vers le Maître, si nous négligeons ses avis, ses conseils et surtout ses commandements, alors ne nous étonnons pas si nos projets conduisent à l'échec ou à la ruine. Moi veux faire tout seul, dit le petit enfant. Et c'est une très bonne chose pour son développement. Tant que ses parents sont là pour veiller au grain et intervenir dès que la situation devient périlleuse. Il en est de même pour nous, chers frères et sœurs. Dès que notre arrogance ou notre suffisance reprend le dessus, même si nous pensons passer à côté, même si nous ne la voyons pas venir, la chute est inévitable. Il y a de quoi avoir le moral à zéro, me direz-vous. Déjà qu'il y a la Covid-19, voilà que t'en rajoutes avec notre chute. Et puis, puisque chuter est inévitable, à quoi bon lutter? À quoi bon essayer de bien faire, puisque c'est impossible? Pour notre nature humaine, c'est effectivement impossible. Mais heureusement, nous ne sommes pas seuls. Jésus a dit à Pierre, « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous passer au crible comme le blé. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas. Et toi, quand tu seras revenu à moi, affermis tes frères. » Et Jésus a dit aussi, la veille de sa mort, « Après ma résurrection, je vous précéderai en Galilée. » Chuter est inévitable, mais nous ne sommes pas seuls. Avant d'examiner comment nous pouvons être relevés, je vous invite à essayer de déterminer d'où vient que nous chutons. Qu'est-ce qui nous fait chuter? Un proverbe nous dit « L'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. » Une des principales causes de chute pour chacun d'entre nous est l'orgueil. À propos du mot « orgueil », le dictionnaire dit « Sentiment exagéré de sa propre valeur, estime excessive de soi-même qui porte à se mettre au-dessus des autres. Suffisance, vanité, prétention. » Face aux autres, nous sommes très souvent dans la comparaison, voire dans la compétition. Nous comparons nos capacités, nos biens, nos vêtements, nos voitures, nos maisons, nos bijoux, et j'en passe. Bien souvent, nous nous définissons par notre métier et notre position sociale. Mais Jésus nous invite à changer radicalement notre échelle de valeur. Quand les disciples se sont mis à discuter pour savoir lequel d'entre eux était le plus grand, Jésus a pris un enfant, l'a placé auprès de lui et leur a dit « Celui qui reçoit cet enfant par amour pour moi, me reçoit moi-même. Et celui qui me reçoit, reçoit aussi celui qui m'a envoyé, le Père. Car celui qui est le plus petit parmi vous tous, c'est lui qui est le plus grand. » C'est souvent quand nous nous sentons trop sûrs de nous, quand nous sommes affirmatifs, voire péremptoires, c'est-à-dire quand nous avons une attitude catégorique et tranchante, que nous sommes dans l'orgueil. Chuter pour nous à ce moment-là, c'est manquer l'occasion qui nous était donnée de témoigner de l'amour de Christ. Au contraire, l'apôtre Paul, s'adressant aux Galates, nous exhorte à servir. Ne soyons pas vaniteux. Renonçons à nous défier ou à nous envier les uns les autres. Aidez-vous les uns les autres à porter vos fardeaux, vous obéirez ainsi à la loi du Christ. Que chacun examine sa propre conduite. S'il peut en être fier, il le sera alors par rapport à lui seul, et non par comparaison avec autrui. Car chacun doit porter sa propre charge. Ne nous lassons pas de faire le bien, car si nous ne nous décourageons pas, nous aurons notre récolte au moment voulu. L'orgueil, la vanité, l'arrogance sont à coup sûr des occasions de chute. Il en est une autre. C'est le mensonge ou la flatterie qui sont tous les deux des formes de manipulation. Un autre proverbe nous dit « La langue menteuse déteste ceux qu'elle écrase et la bouche flatteuse provoque la chute. » Le mensonge est peut-être pire que l'orgueil, car si l'orgueil peut causer la chute de l'orgueilleux, le mensonge, lui, finit à coup sûr par causer la chute du menteur, mais en plus, il peut entraîner la chute de ses victimes. C'est comme les faux prophètes qui sont apparus autrefois dans le peuple d'Israël. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous déguisés en brebis, mais au-dedans, ce sont des loups féroces. Vous les reconnaîtrez à leur conduite. On ne cueille pas des raisins sur des buissons d'épines, ni des figues sur des chardons. Un bon arbre produit de bons fruits, et un arbre malade de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut pas produire de mauvais fruits, ni un arbre malade produire de bons fruits. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits est coupé puis jeté au feu. Ainsi donc, vous reconnaîtrez les faux prophètes à leur conduite. Dans la vision de l'apôtre Jean relatée dans l'Apocalypse, il est dit « C'en est fait, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Celui qui a soif, je lui donnerai à boire gratuitement à la source d'eau de la vie. Quiconque aura remporté la victoire recevra de moi ce don. Je serai son Dieu et il sera mon fils. » Quant aux lâches, aux infidèles, aux êtres abominables, aux meurtriers, aux gens immoraux, à ceux qui pratiquent la magie, aux adorateurs d'idoles et à tous les menteurs, leur place sera dans le lac de soufre enflammé qui est la seconde mort. Souvenons-nous que Dieu a en horreur le mensonge et que tout ce qui est caché sera crié sur les toits. Les lèvres mensongères font horreur à l'Éternel, tandis que ceux qui agissent avec fidélité lui sont agréables. Il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doive être connu. C'est pourquoi tout ce que vous aurez dit dans l'obscurité sera entendu en plein jour, et ce que vous aurez dit à l'oreille dans les chambres sera proclamé sur les toits. L'orgueil et le mensonge nous font chuter. Il y a bien entendu de très nombreuses autres causes possibles de chute, parmi lesquelles nous pouvons citer l'idolâtrie, la médisance, la convoitise, le ressentiment qui conduit au refus de pardonner et la haine. L'idolâtrie, par exemple, peut se traduire de nos jours par l'adoration de l'argent, l'adoration portée à certains chanteurs, certaines personnalités ou sportifs. Ce peut être aussi l'idolâtrie de son propre corps à travers un culturisme excessif ou même un narcissisme caractérisé. Le ressentiment à l'égard de quelqu'un est le fait de sentir, et sentir encore, les effets négatifs du mal que cette personne nous a fait. Le ressentiment entretient en nous le mal et nous rend encore plus malades qu'à l'origine. Il nous fait chuter en nous conduisant au refus de pardonner et nous interdit la guérison. D'une manière générale, tout péché est une chute, et donc, comme le dit l'apôtre Paul, le malin peut utiliser chaque commandement pour essayer de nous faire chuter. Le péché a saisi l'occasion offerte par le commandement pour produire en moi toutes sortes de convoitises. Romains 7, verset 8a. Nous l'avons dit, chuter est inévitable. Parmi les causes possibles de notre chute figurent en bonne place l'orgueil, le mensonge, l'idolâtrie, la médisance, la convoitise, le ressentiment, le refus de pardonner et la haine. Je ne sais pas vous, mais face à ce constat, je me sens bien faible. Je crois pouvoir dire, sans trop de risque de me tromper, nous nous sentons bien faibles. Mais nous ne sommes pas seuls. Alors ne cédons pas au pessimisme ou à l'abattement et voyons comment être relevés. En premier lieu, il faut bien le dire, chers frères et sœurs, nous ne pouvons pas nous relever nous-mêmes. Penser le contraire serait à nouveau faire place à l'orgueil et s'illusionner totalement. Par contre, il nous appartient à nous seuls de faire la première partie du chemin. Par exemple, Pierre a montré un cœur contrit et pleuré amèrement. La première partie du chemin, le premier pas, commence par reconnaître son péché. Dans le psaume 32, le roi David nous le dit. Heureux l'homme que le Seigneur ne traite pas en coupable et qui est exempt de toute mauvaise foi. Tant que je ne reconnaissais pas ma faute, mes dernières forces s'épuisaient en plaintes quotidiennes. Car de jour et de nuit, Seigneur, tes coups pleuvaient sur moi et j'étais épuisé comme une plante au plus chaud de l'été. Là encore, c'est une évidence quand on parle en général. Mais combien difficile est parfois la démarche pour faire taire notre orgueil. Nous cherchons toutes sortes d'excuses. C'est souvent de la faute de quelqu'un d'autre ou de la faute des circonstances. Nous tournons autour du pot, parfois même avec une énorme mauvaise foi. Heureux l'homme que le Seigneur ne traite pas en coupable et qui est exempt de toute mauvaise foi. Souvent, on essaye de tourner les choses à notre avantage. On bâtit un discours destiné à nous persuader nous-mêmes et les autres que ce que nous avons fait est bien, ou pour de bonnes raisons, alors que non. Parfois même, au nom du droit au bonheur terrestre, nous essayons de légitimer ce qui est manifestement contraire aux exigences de Dieu. Quand nous avons passé en revue toutes les excuses possibles et imaginables, nous essayons encore de minimiser et de rallier les autres à notre point de vue, pour ne pas avoir à reconnaître nos fautes. En fait, nous comprenons bien que nous allons avoir à demander pardon, mais nous refusons de le faire. Nous savons bien qu'il va falloir que nous demandions pardon au Seigneur, mais nous cherchons par tous les moyens à y échapper. Parfois même, nous préférons nous complaire dans notre chute plutôt que de faire ce premier pas. De toute manière, il ne me pardonnera pas, c'est trop grave. Je suis nul ou nulle. Cette situation peut souvent se produire si nous sommes dans la position de victime et que nous avons un pardon à accorder, tout en refusant de l'accorder, ce pardon. Nous pouvons alors facilement nous installer dans notre état de victime sans reconnaître notre péché à nous. Qu'il ou elle commence par venir me demander pardon et je pourrai avancer. Mais à la question de Pierre, « Seigneur, combien de fois devrais-je pardonner à mon frère s'il se rend coupable envers moi ? Jusqu'à 7 fois ?» Le Seigneur répond, « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » Ce qui compte à ce moment-là, ce n'est pas l'offense qui nous a été faite, mais bien notre péché en cours. Dans toutes ces situations, nous sommes dans le déni de péché. Tant que je ne reconnaissais pas ma faute, mes dernières forces s'épuisaient en plaintes quotidiennes. Donc, premier pas indispensable pour être relevé de notre chute, ne pas se morfondre ni s'auto-flageller, ne pas se complaire dans sa chute, mais reconnaître son péché. Une fois que nous avons reconnu notre péché, le plus dur est fait. Si nous sommes sincèrement désolés, si nous percevons clairement l'ampleur de notre faute, nous pouvons alors en demander pardon et obtenir le pardon de Dieu et la libération. Je t'ai avoué ma faute, je ne t'ai pas caché mes torts, je me suis dit « je suis rebelle au Seigneur, je dois le reconnaître devant lui » et toi, tu m'as déchargé de ma faute. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité, c'est-à-dire de toute injustice. Dans ce psaume, c'est le roi David qui a parlé. Il a commis une faute très grave. Il a convoité la femme d'un de ses plus vaillants soldats, Uri le Hittite. Il a commis l'adultère avec elle, et il a fait placer ce soldat au pire endroit du front pour qu'il meure, et que lui-même, David, puisse tenter de cacher sa faute. Mais c'est peine perdue, évidemment, car qui peut cacher sa faute à l'Éternel ? Tant que je ne reconnaissais pas ma faute, mes dernières forces s'épuisaient en plaintes quotidiennes, a dit David. Et parce que finalement il a sincèrement reconnu ses fautes devant l'Éternel, il a été pardonné. De même, Si nous confessons notre péché, nous allons être pardonnés et libérés. Il nous faut maintenant nous approprier cette libération. Il nous faut repartir en étant convaincus du pardon et de la libération qui nous ont été accordés. Attention à ne pas nous laisser influencer par le mauvais qui va essayer de nous faire revenir en arrière en nous replongeant dans la culpabilité. Levons nos têtes et regardons au Christ vainqueur. Dieu ne revient pas sur ce qu'il nous a pardonné. Aucun Dieu n'est semblable à toi. Seigneur, tu effaces la faute, tu pardonnes la révolte du reste de ton peuple qui a survécu. Ta colère ne dure pas à toujours, car tu prends plaisir à nous manifester ta bonté. Une fois encore, tu auras pitié de nous, tu ne tiendras pas compte de nos fautes, tu jetteras nos péchés au fond de la mer. Michée 7, 18-19. En fait, la démarche offerte par notre Seigneur est ultra simple. À nous de nous décider rapidement, ou bien de faire traîner durant des jours, voire des mois ou des années. Mais attention de ne pas lasser la patience de notre Seigneur. En préparant ce message, une question s'est imposée à moi. La chute est-elle une perte de foi? Après tout, si Pierre avait eu la foi au moment où il a renié Jésus, il ne l'aurait pas renié. Disons-le immédiatement et fortement, cette phrase est un mensonge. Satan aimerait bien que cette phrase soit vraie. Il cherche toujours à nous perdre, mais Jésus qui le sait et qui veille sur nous, et qui est plus puissant que lui, a prié pour Pierre. Jésus adresse au Père une prière spéciale pour la délivrance de son disciple. Ce qu'il demande pour lui, c'est que sa foi ne défaille point, c'est-à-dire qu'il ne perde point la confiance en son maître, la confiance en son amour. Si l'apôtre Pierre avait perdu la confiance en Jésus, s'il n'avait plus cru en son amour, tout aurait été perdu. Il serait tombé dans le désespoir, comme Judas qui s'est finalement pendu. Mais ce n'est pas ce qui est arrivé. Plus tard, le souvenir de cette parole de son maître a dû d'ailleurs contribuer puissamment à relever la foi de Pierre. Quoi qu'il en soit, la chute ne marque pas dans ce cas une perte de foi. Certes, il y avait un risque que Pierre, perdant confiance en lui après son reniement, ne rejette tout en même temps, en perdant aussi confiance en Jésus, donc en Dieu. C'est pourquoi Jésus a prié pour lui. Et il prie aussi pour nous. C'est l'apôtre Jean qui nous le dit. « Mes enfants, je vous écris ceci afin que vous ne commettiez pas de péché. Mais si quelqu'un en commet, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le Juste. » Car Jésus-Christ s'est offert en sacrifice pour le pardon de nos péchés, et non seulement des nôtres, mais aussi de ceux du monde entier. Cet épisode nous fait bien comprendre que, contrairement à ce que j'ai longtemps cru moi-même, une chute grave telle qu'un reniement ne marque pas nécessairement une perte de foi. Nous pouvons avoir peur ou être désorientés parfois, comme Pierre l'a été, mais Jésus prie pour nous. N'hésitons alors pas à revenir vers lui avec un cœur contrit et sincèrement repentant. À l'image de Pierre, qui a pleuré amèrement. Si nous confessons nos péchés, nous pouvons avoir confiance en Dieu, car il est juste. Il pardonnera nos péchés et nous purifiera de tout mal. La chute n'est pas nécessairement une perte de foi. Je dirais même que parfois ce peut être le contraire. Si nous acceptons de faire le premier pas, qui marque le renouvellement de notre confiance en Christ, chuter nous permet d'expérimenter le pardon de Dieu et de nous relever avec une foi plus forte dans une paix renouvelée. Chuter est inévitable. Qu'est-ce qui nous fait chuter? L'orgueil, le mensonge, l'idolâtrie, la médisance, la convoitise, le ressentiment, le refus de pardonner, la haine, etc. etc. Comment être relevé? Ne pas se morfondre ni s'auto-flageller. Ne pas se complaire dans sa chute. Reconnaître son péché. Être pardonné et libéré. S'approprier la libération du Père. Et souvenons-nous que la chute n'est pas nécessairement une perte de foi. Merci Seigneur d'avoir prévu pour nous cette démarche magnifique que tu nous as acquise à la croix. Nous te bénissons. Merci Seigneur, gloire à ton nom. Amen.